L'espoir est toujours là. On vit d'espoir depuis le premier jour de la guerre. On ne peut pas vivre sans espoir. Déjà, là, c'est un grand soulagement, surtout pour mon fils Walid. Moi, la grande victoire pour moi, c'est que Walid a été épargné de tout ce qu'on a vécu. Pour lui, on est toujours en vadrouille. Il a pas compris qu'on est dans une guerre. Et pour moi, c'était vraiment la grande victoire que, au moins, il n'est pas traumatisé, il n'est pas touché, il n'est pas choqué. Et là, récemment, quand on va dire qu'on va rentrer à Gaza, je lui dis, la vadrouille est finie. On va finir les tentes et tout ça, le camping. On va rentrer chez nous, dans notre appart. Et il était très content. Il a pris une casserole, il a commencé à taper sur la casserole en disant Gaza, Gaza. Pour lui, Gaza, il ne connaît pas parce qu'il était encore presque bébé quand on est sorti. Mais pour lui, Gaza, c'est quand il a vu les vidéos de chez nous, il a vu que Gaza, pour lui, c'est les jouets, c'est sa tonnière, c'est sa voiture, c'est sa moto, c'est son lit, c'est sa douche, c'est sa baignoire. Donc, il était content qu'on va revenir à la vie normale et qu'on a fini ce camping-là et va rentrer chez nous.
Et vous le saluez, Baba Walid. Merci beaucoup, Rami Abou Djamouz.
Au terme de notre nouvelle émission sur la guerre de l'armée israélienne contre les Palestiniens, nous espérons que le cessez-le-feu à Gaza tiendra suffisamment de temps pour qu'un chemin vers la paix puisse être enfin construit entre les deux peuples qui en ont vraiment besoin. Je remercie toutes les personnes qui se sont exprimées dans notre émission. Je vous recommande aussi la consultation du site Orient 21 pour avoir des informations sérieuses sur le Proche-Orient. Merci aussi à Frédéric qui assure la diffusion de nos émissions sur Radio Libertaire. Et maintenant, je vous dis à la semaine prochaine, bien sûr. Ciao, ciao.
من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت وجه بحار من روح الشعب خمر هي من عرقه خبز وياسمين فكيف صار طعمها طعم نار ودخان لبيروت مجد من رماد
Je suis noir. Je suis Regarde la map monde, tu verras que notre nombril, profitant d'un confort, alimentant les conflits, va vie et consomme. À quel prix finit le temps des colonies? Par l'esprit, diplomatie, ingérence, mission civilisatrice, démocratie, bonne conscience, programme humanitaire. Chaque action porte le poids de millions de cicatrices. Dès lors difficile bâtir un échange égalitaire. Tradition paternaliste, vision matérialiste, c'est le pire impérialisme. Le règne des privilèges, le refus de l'alternative. Le tout couvé par des yes weekend et no more fighting. En vrai ce sont nos guerres, nos morts. Ceux d'un modèle et de l'envers d'un décor à peine voilé. Face à ces faits cessons de fuir. On ne peut abattre ce système mais on peut déjà le déconstruire.
Ce gouvernement a été fondé par les riches. Les personnes qui vous représentent sont payées pour que vous restiez dans votre bêtise. Dans votre petit monde bien fermé sur lui-même. Alors réveillez-vous parce que le lavage des cerveaux médiatiques fonctionne à merveille. La guerre en Irak était criminelle. Nous avons un état voyou, un état qui viole toutes les lois internationales.
Les deux jambes de la France, l'Afrique et le nucléaire. Jamais trop tard pour l'ingérence et pour l'uranium au Niger. Le capital porte en lui toutes les guerres, l'hégémonie au menu du génocide et des affaires. Le terrorisme c'est moral avec des rafales et des drones. Un peu plus bas tu verras des corps de gosses et du pétrole. C'est ça qui fait tourner le monde, la grandeur de l'Occident. C'est d'arroser de bombes le Proche et le Moyen-Orient. La défense des droits de l'homme pour établir un monopole. Pour la Libye ou la Syrie, pas d'alibi, c'est pas de bol. Les grands groupes industriels feront la pluie et le beau temps. L'OTAN est exécutable, pourtant c'est officiel. L'Union Européenne tire les ficelles et pacifie. Nos missiles sont démocratique pour que l'histoire se falsifie. Impérialisme économique, macro de multinationales, des Ronald, McDonald, apôtres du colonialisme.
Je vais vous ouvrir les yeux pour réveiller vos choses. La vérité, c'est que toutes les guerres ont eu lieu pour le fric et que le petit peuple doit crever parce que les élites en ont des idées. Nos grands patrons ne sont que des gangsters. Dans cause du marriage, qu'est-ce qu'ils envoient les drones? Des bombes ou des bonbons pour les petits enfants? Avec des mots, on changera rien.
Il continue de tracer les cartes à la Sykes-Picot. Il crée le mal et le vaccin, mais on serait de sales mythos. Le décor est sombre, des bombes, des drones sur des femmes, des hommes et des corps de momo proie d'une armée coloniale. Le vol est colossal, le viol est comme une arme. Ils appellent ça chirurgical. Réaliste et pessimiste, mais rêveur et optimiste. On continuera malgré les charges des flics qui terrorisent. Je radicalise ma rhétorique catégorique. Lâchés pourris sont nos élites, nourris blanchis de leur génocide. Le boycott est notre sanction. Que les béquets réalisent que la machette c'est notre chanson. Aucun appel au calme, donc jusqu'à ce qu'on opère un devoir de mémoire sur la trace de nos pères. Ils veulent nous voir à terre et à bout de souffle on souffre. Mais on se bat pour que la roue tourne.
On paye pas le tiers monde peut-être. On les laisse crever de faim et crever tout court pour maintenir notre niveau de vie. On peut toujours voter et élire quelqu'un. Les lobbyistes qui ont le pouvoir. Ce que j'attends de vous, c'est que vous changez le monde. Et ça se fera pas tout seul, ça se fera pas pacifiquement.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et ce soir, dans Jeudi Noir, c'est Jean-Mathias qui va vous présenter un livre, La République impériale, écrit par Olivier Lecourt Grandmaison, donc Poétique et racisme d'État. Voilà, donc avec Michel aux platines. Et donc, c'est un livre...
Le roi du fader.
Voilà, donc si ce soir c'est parfait, il faudra féliciter Michel. Et donc c'est un livre qui nous parle de donc la République impériale.
C'est la troisième. C'est
la troisième à partir de 1800. Enfin et là l'extension des, enfin l'extension territoriale outre-mer par la France, donc avec les colonies à partir de 1871, entre 71 et 1913.
Et jusqu'à 39. Hein,
puisque, jusqu'à 39.
Parce que t'as les années 30 aussi. Ouais.
Et voir la façon dont ces colonies ont été administrées, scientifiquement, au niveau des institutions, au niveau de l'éducation, etc.
Ouais. Alors, bah, le Olivier Lecourt, Grand Maison. Donc, le bouquin est de 2009. Hein, pour, voilà, c'est édité chez Fayard. 2009, donc, c'est pas un bouquin très, tout à fait récent. En fait, le contexte de ça, 2009, c'est le quinquennat Sarkozy. Et c'est les débats autour du ministère de l'Identité nationale. Ouais. Hein, et effectivement, une espèce de racisme d'État, ou en tout cas, voilà, une espèce de discours d'État raciste et voilà. D'inspiration coloniale, en fait, hein, qui ressurgit un peu en force en la personne de Sarkozy et qui s'invite, en fait, dans les institutions républicaines avec la création d'un ministère. Donc, bon, c'est ce qui en est advenu. Hein. Donc, le livre de 2009, donc c'est ça le contexte hein, d'écriture de ce texte-là. Après, ce qui me semble intéressant, c'est que dans ce travail-là de Lecourt Grand Maison, il y a beaucoup d'éléments historiques, idéologiques, qui permettent quand même de comprendre ben, la manière dont en fait ce débat il a pas quitté la sphère publique depuis Sarkozy. Alors il était déjà là avant, bien évidemment.
À quel niveau,
au niveau politique, au niveau voilà avec le
idéologique.
Ben, idéologique, voilà la hantise de l'immigration maghrébine, postcoloniale, les délires permanents sur l'identité, etc., etc. Bon, enfin comme moteur, voilà de la montée de l'extrême droite patriote, n'est-ce pas? Patriote qui suppose évidemment un ennemi imaginaire dehors et à l'intérieur. Et cet ennemi, effectivement, il est la cible de choix, c'est quand même l'immigré des anciennes colonies. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que c'est un travail que moi j'ai trouvé très intéressant. Alors, il vient de sortir un livre là, Lecourt Grand Maison, plus récemment. Il a été invité d'ailleurs, je crois, sur cette antenne aussi dans une autre émission. Mais ça, c'est plus ancien puisque le livre est de 2009, mais il me semble qu'il garde toute son actualité. Alors, la deuxième précision, c'est qu'en fait, c'est pas un historien, Lecourt Grand Maison, c'est un politiste. Hein, donc, il enseigne les sciences politiques à l'université. Et du coup, c'est un livre qui est aussi un peu qui est intéressant de ce point de vue-là parce que c'est pas une thèse d'histoire, c'est pas un travail d'historien non plus au sens où en fait son souci et sa méthode est un peu hétérodoxe parce qu'il s'intéresse beaucoup au texte en réalité, au texte, aux prises de parole. Il y a un travail aussi sur le réseau institutionnel, toutes les institutions publiques, parapubliques et privées qui ont accompagné et porté l'expansion coloniale de la Troisième République.
Il y a une vision un peu institutionnaliste, en fait.
Institutionnaliste et idéologique, je dirais. Idéologique. C'est-à-dire que son souci, c'est pas d'essayer de décrypter, en fait, ce qu'aurait été la réalité de cette idéologie coloniale dans les masses du peuple français métropolitain, on va dire, ni même chez les colonisés en tant que tel. Il s'intéresse à des discours, il s'intéresse à des évolutions intellectuelles, politiques, juridiques, philosophique aussi, institutionnel comme tu l'as rappelé, et tout ça en fait ça trace quoi, ça lui permet de tracer donc de 1871 jusqu'à 1940 en fait, jusqu'à la chute de la troisième, donc quand même sur 70 ans, toute une espèce de cohérence idéologique dans le discours, dans les institutions, qui tend à, bah, en gros, à comment on va dire ça, à acclimater le projet républicain à un projet impérial.
Hein. Justification idéologique
de la colonisation dans un cadre républicain. Alors ça, rien que ça, il me semble que c'est quelque chose d'intéressant parce que souvent, quand on pense empire. En fait, dans l'histoire académique, scolaire, je dirais, bon, bah, il y a Napoléon Ier, voilà, il y a le Premier Empire, il y a le Deuxième Empire, et puis en gros, après, c'est fini. C'est-à-dire qu'effectivement, après, c'est la République. Alors, la République qui, en gros, existe de manière un peu intermittente depuis la Révolution française, mais le fait de penser la République comme un régime impérial en tant que tel, je trouve que déjà en tant que tel, en soi c'est intéressant, alors, ça n'a rien de révolutionnaire ni d'original, mais en fait c'est son projet, c'est de montrer comment en fait le projet et les idéaux républicains ont été alors subvertis, si on est optimiste sur ces idéaux républicains, ou en tout cas acclimatés et nourris par une idéologie impériale. Donc c'est ça un petit peu l'enjeu du livre pour la France. Et puis en fait ça se termine sur une perspective, alors qui là du coup est forcément un peu plus risquée pour lui, parce que c'est une perspective plus historique pour le coup, plus historienne même, sur l'histoire des idées, pourrait-on dire, avec le dans la conclusion, hein, et le dernier chapitre, il essaye de montrer à la fois comment ce qui a pu se produire idéologiquement, institutionnellement, juridiquement en France, dans le cadre de l'empire colonial français, sous la Troisième République, comment ça a pu nourrir ou jalonner, alors qu'est-ce qu'il y a de commun et qu'est-ce qu'il y a de différent avec les concepts utilisés par le nazisme hitlérien sur la notion d'espace vital associé à un peuple défini en termes de race, hein, en termes racialistes. Et ce qui montre, alors c'est intéressant parce que il montre qu'il y a à la fois des points communs et aussi des différences.
Notamment l'appui sur le droit.
Notamment l'appui sur le droit, sur les institutions, sur voilà, sur un certain nombre de catégories conceptuelles. Mais le droit, t'as raison d'insister là-dessus, parce que il y a une influence, ça c'est difficile à évaluer, mais en tout cas il y a des communications, hein. Et l'impérialisme français est pas le seul, hein, à avoir nourri cette idée d'espace vital, de Lebensraum.
C'est ça, un terme qu'ils reprennent en tant que tel, espace vital, ou c'est le concept,
c'est la traduction littérale du Lebensraum.
L'utilise le terme espace vital.
Alors c'est le terme est quasiment il est utilisé sous la plume de certains auteurs
des scientifiques,
des philosophes en l'occurrence, des philosophes, et il montre voilà alors en quoi effectivement on peut considérer, enfin en tout cas son idée, ce qui est défendable, c'est que l'impérialisme, l'idéologie impérialiste républicaine française n'a pas rien à voir, voilà, avec l'impérialisme nazi et catastrophique, voilà, qui s'étend à partir de 1933. Donc il y a des liens, c'est pas le seul d'ailleurs, hein, l'impérialisme britannique du point de vue idéologique a aussi nourri Hitler et l'idéologie nazie. Bon, alors après j'en parlerai rapidement de ça, mais je pense pas que ce soit l'essentiel ou le point le plus intéressant, ni forcément le plus convaincant du livre, parce que bon, on a pas mal parlé ici aussi, hein, mais dans l'histoire du nazisme, du point de vue idéologique, il y a beaucoup de choses, c'est compliqué, il y a des spécificités aussi qui sont propres à l'Allemagne. Donc, mais au moins il a le mérite de poser la question, quoi. Et en tout cas, l'idée c'est que des institutions, un régime et une idéologie républicaine ne sont pas forcément immunisés contre, au minimum, des dérives de ce type-là. Alors le point de départ, donc en fait c'est la naissance de la Troisième République, et au fond il rappelle en fait dès le début du livre historiquement ce qui va motiver le projet d'expansion coloniale et impériale de cette République. En fait pour lui il y a deux causes, alors c'est pareil, c'est des choses qui sont connues, mais il y a évidemment la défaite face à l'Allemagne de 1870 et la Commune de Paris. Et la Commune de Paris, c'est-à-dire le spectre de la guerre civile au sein même, hein, de la République. Et donc cette chambre qui va se former et qui va créer la Troisième République à partir de 1871, hein, sous l'impulsion de Thiers, voilà, le fusilière du Père Lachaise et de la Commune. Il y a une humiliation nationale, hein, qui est liée effectivement à la défaite face à l'Allemagne. Il y a cette grande peur de la guerre civile liée aussi à la commune, de la guerre civile sociale. Hein. Et au fond, l'expansion impériale va constituer une espèce de point d'équilibre qui va permettre à la République, ou en tout cas aux élus républicains, aux politiques républicaines, bah finalement de se projeter vers autre chose que cette espèce d'humiliation de la défaite.
De restaurer leur grandeur.
De restaurer leur grandeur, de passer des alliances qui vont être, qui n'étaient pas gagnées au départ, notamment avec les monarchistes, qui accusent la République d'être un régime de faible, hein, puisque en fait, la République serait, du point de vue des monarchistes à l'époque, comme ils le rappellent, hein, le livre est très très documenté, hein, en termes de citations, il a épluché les rapports de séance de l'Assemblée l'Assemblée nationale, des différentes prises de parole des uns et des autres. Et en fait, il montre comment, bah justement, c'est une constante dans la critique monarchiste anti-républicaine, d'accuser la République d'être incapable, finalement, de projeter la grandeur de la France en dehors des frontières du territoire national. Et là, eh bien, avec cette idée d'empire, il va y avoir la possibilité, finalement, de restaurer une forme de grandeur de la France. Et d'ailleurs, ça va marcher. Ça va marcher, c'est-à-dire que ça va permettre effectivement d'avoir une espèce de consensus idéologique autour de cette idée que la République est un régime fort et bien plus fort que n'a jamais été la monarchie, puisque en fait elle va permettre d'étendre le territoire national comme jamais, d'augmenter la population de l'Empire. Alors c'est pas des Français, et on va le voir très vite, ça c'est pas des, c'est, mais c'est les sujets de la plus grande France, hein, comme on dit à l'époque.
Dans le droit, il va y avoir une distinction entre citoyens
tout
et
suite,
sujet.
Tout de suite, hein, très rapidement. Mais on va avoir une espèce d'impérialisation, comme il dit, de la République, de ses institutions, de sa vocation idéologique. Ce qui va pas sans difficulté, hein, parce que alors ce qui montre, c'est pareil, c'est que c'est une espèce de projet idéologique qui a ses opposants, bien évidemment. Alors il a ses opposants à gauche. Il a ses partisans aussi à gauche de l'époque. Alors la gauche, c'est la gauche anticommunarde, hein, mais en tout cas, les républicains sont classés à gauche par rapport aux monarchistes à l'époque. Et en fait, il rappelle un certain nombre de débats. Alors évidemment, le chantre et le porteur de drapeau de ce projet impérial républicain, c'est Jules Ferry. Ouais. C'est Jules Ferry, mais qui est soutenu à l'époque, hein, donc là on est dans les années 1870-1880, il est soutenu par Jaurès, jeune à l'époque, hein, qui va changer ensuite d'avis complètement et qui va devenir anti-impérialiste, virulent, mais plus tard, c'est-à-dire dans un premier temps, il soutient. Et en face, à l'époque, alors il y a un jeu de chasse et croisée, parce que ceux qui s'opposent à cette expansion impériale, c'est notamment Clémenceau, qui lui va changer d'avis plus tard et va devenir effectivement un partisan de l'Empire lorsque celui-ci sera complet. Et aussi une figure comme Pelletan, alors qui est moins connue historiquement, mais il nous dit qu'en fait ce qui est intéressant, c'est que au départ, hein, là on est vraiment au début, la mise en place du projet, il faut déjà effectivement le faire accepter par la classe politique, en tout cas trouver un consensus pour effectivement lancer la France, relancer la France en fait dans cette aventure-là, puisque ça date, hein, de Louis-Philippe et puis et de Napoléon III. Il y a déjà une politique impériale là qui était complètement assumée à l'époque, mais en fait il y a des débats très virulent à l'époque, et il dit qu'au fond, ce qui est en jeu finalement, c'est la conception républicaine du patriotisme, hein, entre ces deux camps-là, et qu'en fait, ce qui va apparaître à ce moment-là, c'est une espèce de consensus assez majoritaire autour d'une forme de national-patriotisme qui va finalement, en un sens, rabougrir, si tu veux, les idéaux de la République de 89, la fidélité aux droits de l'homme, citoyen, la vocation universelle de la Révolution française, qui va rabougrir ça aux habitants du territoire national. Et en face, ceux qui s'opposent à ce projet-là à l'époque sont partisans d'un patriotisme qui, lui, reste universel, c'est-à-dire qui reste fidèle aux idéaux de la Révolution française, en tout cas à ceux portés, par exemple, par Robespierre. On sait que Robespierre était aussi un farouche opposant à l'impérialisme et aux conquêtes coloniales, hein, et qui s'était opposé dans de nombreux discours à ce mouvement-là. Donc là, idéologiquement, en fait, il y a quelque chose qui se joue à ce moment-là. Et au fond, c'est assez intéressant. Encore une fois, c'est pas le cours Grand Maison qui découvre ça, hein, dans ce livre sur la République impériale, mais c'est une conception, une certaine conception du patriotisme qui est un sacré coup de canif, si tu veux, dans les idéaux républicains de 89 ou de 93. Ouais. Et qui, pour le coup...
De la Commune, même.
Et de la Commune, évidemment. Ah bah, la Commune, c'est la République universelle par excellence, hein, mise en avant. Donc là, on est... C'est vrai qu'en ce sens-là, effectivement, le précédent de la Commune, et puis les espèces de trouilles générales, hein, qu'elle provoque chez la bourgeoisie, la paysannerie, et puis une bonne partie de la société française, permet sans doute d'expliquer de aussi hein, cette espèce aussi, de voilà de repli et de restriction si tu veux voilà de la portée du projet républicain, mais ça se fait pas tout seul hein. C'est-à-dire qu'il y a des débats acharnés et il y a des accusations évidemment qui sont faites à Ferry d'abandonner tout simplement l'idéal républicain.
Et l'opposition est quand même franche, alors c'est pas ça, il y a un consensus qui se crée mais avec une opposition assez forte, c'est pas minoritaire, enfin c'est pas
c'est l'opposition qui est minoritaire. Ils perdent. Non, c'est pas résiduel mais c'est minoritaire, c'est-à-dire qu'ils perdent la partie. Ils perdent la partie et c'est Ferry qui gagne et c'est Ferry qui gagne et qui embarque effectivement la République, la Troisième République, dans ce projet impérial, et qui va du coup derrière aussi avoir un projet d'impérialisation, hein, et ça c'est le mouvement finalement qui est décrit dans le livre hein, de Le Cours Grand Maison, mouvement d'impérialisation de l'appareil d'État. Alors en partie parce qu'effectivement c'est pas forcément central dans le fonctionnement, mais en fait ça le devient assez vite. Impérialisation de l'appareil d'État et aussi un travail d'impérialisation de la société elle-même, qui va donc nécessiter tout un travail du point de vue de l'éducation, du point de vue du droit, du point de vue de la philosophie et des instituts de démographie, etc., etc. Okay. Donc ça c'est un peu ça le point de départ, si tu veux, le lancement idéologique de ce projet-là. Et cette tentative réussie hein, pour impérialiser la République.
Ok, bon, on va peut-être faire une pause là-dessus et aborder les points juste après un morceau de musique choisi par José.
Vem como quem quer, fazer de mim ninguém. Eu sou uma mulher livre da cidade. Eu sou o que eu quiser. Decisão é consequência. Se te assusta a minha aparência, boto fogo no olhar e acendo minha consciência. Jogo pra ganhar. Não sou cliente da anulação. Não consumo veneno, não transo ilusão. Me abasteço de argumento, conteúdo é munição. Miro e sigo. Te quero contigo. É território conquistado. Oh, oh, oh. É espaço garantido. Não é mais meu inimigo. Não te quero domado. Não te quero contido. É território conquistado. É espaço garantido. Olha ela. Olha lá. Olha lá. Loving it.
Cada passo um pedaço. Agora traço uma memória que eu sempre serei.
Falo eu porque sou nós.
Quinto de entranhas, ímpeto feroz.
Afastando atitude atrás, partindo pra cima do boy.
Pra quem não conhece o respeito, eu sou um perigo. Me olho no espelho e digo. Território conquistado.
É território conquistado.
Espaço garantido.
Não é mais meu inimigo.
Não é mais meu inimigo.
Não te quero domado, não te quero contido.
Não te quero domado, não te quero contido.
Território conquistado.
É território conquistado.
É espaço garantido.
Território conquistado, espaço garantido.
Todo povo do povo, povo.
Thank you.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et donc c'est Jeudi Noir qui continue avec Michel au platine, toujours, et Jean-Mathias qui nous présente un livre de 2009 publié chez Fayard, La République impériale, politique et racisme d'État, écrit par Olivier Lecourt Grandmaison. Donc, tu nous disais comment l'expansion coloniale de la fin du 19e siècle en France s'était appuyée sur un besoin de restaurer la grandeur française suite à la défaite face à l'Allemagne et suite à la Commune, en fait. Et comment il y a un espèce de consensus qui s'est créé autour d'une idéologie, en fait, impérialiste qui va avoir des conséquences donc, dans le droit. Et, au niveau, et qui va être légitimé par certaines conceptions scientifiques. Voilà.
En fait. Oui, alors, en fait, t'as ce projet impérial qui est en fait assez, assez facile à comprendre. C'est un projet, effectivement, d'expansion, de puissance, de restauration d'une certaine voilà, puissance de la France face à l'Allemagne, face à la Grande-Bretagne qui, à l'époque, a déjà un empire absolument colossal. C'est une manière aussi de conjurer la grande crainte de scission, de guerre civile suite à la Commune de Paris. Hein. Il s'agit de remettre en ordre la société autour d'un projet d'expansion et l'empire, l'impérialisme va être la solution qui va se dégager consensuellement à la suite de débats et d'oppositions assez virulentes, hein, parce que ça suppose des ajustements assez une sacrée gymnastique pour s'accommoder des idéaux républicains. Et donc l'idéologie va venir dans un deuxième temps, hein, comme toujours, c'est-à-dire dans une pour habiller ça et pour donner une cohérence effectivement discursive dans un premier temps, et ensuite dans un deuxième temps, ce qu'il va falloir faire, c'est en fait administrer cet empire-là, parce que le succès de la France, il va être foudroyant.
Mais territorialement, ça fait fois 13, c'est ça, en 40 ans, entre 1970 et 1913, le territoire français passe de 1 million à 13 millions
c'est
de
ça,
kilomètres carrés.
Donc c'est colossal, et c'est des populations extrêmement diverses, sous des cieux divers, des distances considérables, en Asie, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, voilà, c'est les Outre-mer, voilà, y compris les Caraïbes. Et la question, il y a une question tout à fait pratique aussi qui va se poser, c'est comment on administre ça, c'est-à-dire que il va falloir effectivement pouvoir ponctionner les richesses, exploiter la main d'œuvre, mais il faut administrer en fait tout ça. Donc il faut donc il y a tout un travail aussi administratif et avec toutes les disciplines scientifiques qui accompagnent ce type de travail-là, démographie, géographie, statistique bien sûr, et il va falloir des gens, il va falloir former des administrateurs, des cadres coloniaux, il va falloir donc tout ça c'est un travail qui est assez colossal. Alors ce qui dit pas, et évidemment pour un historien c'est assez assez énorme comme manque, c'est quelle part ça prend, si tu veux, sur l'activité réelle du pays. C'est-à-dire, en fait, ça concerne combien de personnes, quelle proportion, quel fonds, quel financement, quelle est l'adhésion de la population à ça. Parce que, en fait, c'est un travail qui vient d'en haut. C'est-à-dire que ce projet colonial-là, pour le coup, il est pas, c'est pas une aspiration profonde du peuple français, si tu veux. C'est la manière dont la classe politique va trouver un moyen de relancer les dés pour réinventer un destin mondial, à la nation, hein, on va dire ça comme ça.
Donc c'est des financements publics massifs en fait.
Alors massifs, je sais pas. Ça, il y a pas d'études économiques sur la part.
Pour fonder l'INED.
Alors c'est pas ça qu'ils font l'INED. Tous ces instituts-là, ils vont exister par eux-mêmes. Et par contre, tu vas avoir des départements dans tout un tas d'institutions publiques, parapubliques, privées, qui vont justement essayer un petit peu de colmater les trous qu'il y a dans cette administration coloniale.
D'accord.
Et de construire un discours, une espèce de cohérence discursif pour justifier justement les financements, les départs, toutes les contraintes entre guillemets qui sont liées au fait d'entretenir, de gérer, d'administrer et d'exploiter un empire.
Est-ce que Grandmaison prend des cas particuliers, des colonies particulières par exemple, s'il parle par exemple du cas algérien, ou est-ce que c'est quelque chose
ce qui l'intéresse lui, c'est
la mentalité, l'idéologie,
c'est plutôt ça. On est sur une histoire un peu idéologique, mais dès le départ en fait il y a cet enjeu un des premiers enjeux, alors celui-là, pour le coup, il est transversal, c'est difficile à mesurer, mais si tu veux, c'est le premier enjeu en métropole, bah, c'est d'impérialiser l'éducation, l'enseignement. Oui. Parce qu'il va falloir préparer aussi, enfin voilà, former les consciences françaises, métropolitaines, au fait que désormais, la République est un empire. Alors, un des théoriciens, une des grandes plumes du début de la Troisième République, c'est Albert Fouillet, notamment, qui est un des inspirateurs des programmes scolaires, mais pas seulement.
Fouillet, c'est un pédagogue.
Alors, il est pas seulement, en fait. Hein, c'est un prof de philosophie, en fait, au départ. Hein, Fouillet, auteur de l'esquisse psychologique des peuples européens. On est au début du XXe siècle, agrégé de philosophie, professeur à la faculté de Bordeaux. Il est souvent considéré comme, en fait, le parrain intellectuel, si tu veux, de la Troisième République. Hein. Donc, il a été conseiller auprès des programmes scolaires, mais en fait, c'est une espèce d'idéologue officiel, on va dire, hein, de l'époque. Et il cite, en fait, un certain nombre des conceptions de Fouillet. Donc là, on est au début du XXe siècle, hein, lorsque l'Empire est en place. Donc, je vous dis ça, page 100 hein, du livre, en note, là. Il rappelle, donc, sous la plume de Fouillet, on va trouver des formules du genre « Il en est de la constitution ethnique pour un peuple comme de la constitution physiologique et cérébrale pour l'individu », écrit-il. « Chaque homme naît avec des facultés naturelles, plus ou moins grandes. S'il est peu intelligent, aucun travail ne le rendra capable de dépasser certaines limites qui lui sont assignées par sa nature propre. De même, si un individu appartient à une race humaine manifestement inférieure ou dégénérée, il restera encore susceptible d'une certaine éducation, mais la conformation native de son cerveau lui interdira tout développement qui dépasserait certaines limites. Seules les races européennes sont capables du plus haut développement intellectuel et social. » D'autres citations encore. Ailleurs, Fouillet soutient que les races supérieures forment jusqu'à nouvel ordre une aristocratie naturelle au sein de l'humanité. Ça, c'est dans Tempérament et caractère selon les individus, les sexes et les races, 1895. Oui.
Et donc ça, c'est issu de la pensée d'auteurs quand même scientifiques.
Oui, alors on n'est pas dans les sciences dures là, parce qu'on a un touche-à-tout. C'est déjà un toutologue de l'époque, si tu veux. C'est un philosophe de formation. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a une importance considérable. C'est notamment un des défenseurs de la séparation de l'Église et de l'État, par exemple.
Ah oui.
Donc un défenseur de la laïcité. Alors où on voit que du coup, la laïcité dès le départ sur cette question coloniale, elle subit déjà immédiatement une espèce de restriction d'application. Parce que, en fait, il s'agit bien de former idéologiquement un certain roman national, si tu veux, qui est impérial, qui devient impérial. Donc, évidemment, on n'aborde pas les questions politiques, idéologiques ni religieuses. Sauf qu'en fait, c'est surtout pour les questions religieuses, en fait, qu'on va pas l'aborder. Parce que c'est une politique, évidemment, qui est mise en place sous couvert d'habillage scientifique. Alors, il continue, hein. Il y a tout un tas de citations qui sont assez éloquentes de ce point de vue-là. Il nous dit, défendu par l'auteur dans des ouvrages réputés, leurs multiples rééditions en témoignent, ces analyses ont contribué à poser les fondements scientifiques, entre guillemets, de l'État impérial républicain qu'il entendait servir.
Mais ce qu'il appelle le fondement scientifique, c'est justement l'inégalité des races.
Bien sûr. L'inégalité et la vocation civilisatrice de la France.
Okay. Hein,
qui va être effectivement aussi, alors pour le coup, à l'œuvre dans les programmes scolaires de toute.
Donc là, on est déjà dans les suites, justement, de ce que tu disais.
C'est l'impérialisme.
C'est cette... de Broca. C'est ça, en fait.
Alors, il ne mesure pas le tour des périmètres crâniens. Tu vois, mais c'est tellement. Il construit une espèce de sens commun raciste, inégalitaire, hiérarchiste, sans forcément aller jusque, tu vois, à la mesure du quantifiable, etc. Mais il y a d'autres citations encore. Hein. Donc là, on est toujours sur la première mise en place, hein, en fait, de cette idéologie coloniale. Fouillé, par un intellectuel de la Troisième République, nous dit le cours Grand-Maison, à condition de ne pas omettre ou occulter qu'il le fut aussi pour les questions coloniales et raciales. Racisme et aussi sexisme républicain, en fait, puisque Fouillet estime que l'homme et la femme, inégaux par nature, sont soumis à un déterminisme interne qui produit entre le mâle et la femelle la division des fonctions pour la perpétuité de la vie et de l'espèce, par cela même les caractères primaires des deux sexes. Plus loin, il ajoute, la femme, avec sa constitution en prédominance d'épargne, ne pouvait manquer d'être avant tout sensitive, de même que l'homme, avec sa constitution de tendance opposée, est normalement actif, etc., etc., etc. Donc, ce qui est intéressant, bon, à la limite, c'est pas le seul, hein, c'est des lieux communs, effectivement les sexistes de l'époque. Voilà, ça se défend, ça se discute. mais en fait, c'est la stature, si tu veux, de la source, là, en l'occurrence, qui est intéressante. C'est-à-dire que cette espèce de construction de lieu commun, enfin, une espèce de légitimation d'État, je dirais presque, hein, en la personne de Fouillé, quoi. Et alors, évidemment, ça, c'est d'autant plus surprenant, si tu veux, que la République et la Troisième, elle est aussi en même temps, et c'est là que le grand écart est, voilà, est intéressant, elle est aussi elle met en avant en permanence les principes de la Révolution. Il faut qu'elle se légitime face à l'Ancien Régime, et face, si tu veux, à la Restauration, face aussi au Deuxième Empire. Donc elle a tout ce travail de légitimation à faire. Donc en fait, elle se revendique haut et fort de la Révolution et des droits de l'homme et du citoyen.
Ah, elle arrive à tenir les deux bouts entre justement cette espèce d'impérialisme et la Révolution de 89.
C'est tout ça qui l'intéresse, si tu veux, dans ce livre. Et donc c'est la manière dont justement, par exemple, tu as tout un travail pour essayer d'impérialiser le droit lui-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la France est la patrie des droits de l'homme et du citoyen, une patrie universelle, eh ben, il faut des sacrées acrobaties, si tu veux, pour arriver à légitimer en fait, la mise en place d'un droit qui, dès le départ, va être dérogatoire.
Un droit distinct entre les colonies
bien entendu.
Et les Français.
Et le débat qui va se jouer à l'époque, c'est le débat entre les partisans d'une assimilation des peuples conquis et ceux d'une association, d'un principe d'association. Mmh. Alors l'assimilation, en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'intégration. Mmh. Et donc ça, effectivement, ça serait un projet égalitaire. Alors égalitaire entre des conquérants et des conquis, c'est toujours un peu compliqué. Mais en fait, les partisans de l'assimilation, ils sont assez rapidement marginalisés, en fait, dans le débat, au profit, justement, des défenseurs d'un principe d'association. Et donc, qui dit association dit que, ben, en fait, on est tous égaux, mais en fait, il y en a qui sont plus égaux que d'autres, et en fait, il n'y a pas d'égalité. C'est-à-dire que on va abandonner, si tu veux, la perspective d'un droit universel, celle qui est portée par les droits de l'homme, de la déclaration de 89, pour mettre en place, en fait, pour justifier, en fait, un droit dérogatoire. Et en fait, ça, sur le fond, ça revient tout simplement à prendre les critiques anti-révolutionnaires en 89 et hostiles à la déclaration des droits de l'homme, celle qu'on trouve chez l'anglais Burke, par exemple, hein, qui, en fait, conteste l'idée qu'il existe même un droit universel et des droits fondamentaux de chaque être humain.
Et comment ils insèrent, alors, justement, les idéaux ou des Lumières ou de la Révolution là-dedans ?
Eh bien, ils les mettent en sourdine. Quand il s'agit de l'Empire, en fait, il s'agit de mettre ça en sourdine, de tenir, en fait, un autre discours. Et en fait, Ferry, qui est présenté comme des figures tutélaires de la République, eh bien, très ouvertement, en 1896, il va revenir, par exemple, au droit à un principe dérogatoire qui a été, en fait, mis en place sous Napoléon III. Donc en espèce de retour à l'Empire, dans les faits, pour ce qui concerne les questions impériales, justement, hein, l'original vaut toujours mieux que la copie. Et donc, en fait, dans le droit, on va avoir ça, avec une mise en place d'un contrôle strict des déplacements, des flux migratoires, effectivement un appel aux différentes académies scientifiques pour essayer de produire, en fait, des justifications quantifiées du racisme dont il parle, du racialisme, hein, un racialisme biologique, là, pour le coup. Et une des applications de ça, par exemple, c'est la mise en place sur le territoire national, à Bobigny, d'un hôpital musulman, en fait, hein, dès les années 1880, avec,
C'est quoi un hôpital musulman ?
C'est un hôpital qui est réservé, en fait, aux malades qui viennent de l'indigénat, donc c'est-à-dire Afrique du Nord ou des colonies, et qui est régi, non pas par le ministère de la Santé, mais par la préfecture de police. Voilà. Et donc, en fait, c'est une espèce d'enclave, si tu veux, d'enclave dans laquelle, effectivement, sont traités...
C'est un hôpital pour musulmans.
Ah, c'est un hôpital pour coloniser, en fait. Hein. C'est un principe de ségrégation raciale et spatiale du point de vue de la santé. Alors, il décrit, c'est un exemple qui est intéressant, hein, il en parle, c'est page 158, je peux lire un passage là-dessus. Hein. Donc, il montre ça. Alors, ça, c'est un peu plus tard. Il nous dit, hein, aux dispositions restrictives imposées aux sujets, hein, ceux qu'on appelle plus des citoyens, mais des sujets. Donc, aux dispositions restrictives imposées aux sujets ou protégés français, souhaitant se rendre en métropole, et à la création en 1925 du service de surveillance et de protection des indigènes nord-africains, s'ajoute désormais cette institution située à Bobigny, qui est alors une banlieue lointaine, fort mal reliée à la capitale. La construction de cet hôpital, réservé aux seuls musulmans, qui sont bientôt contraints de s'y rendre parce que l'assistance publique refuse de les les admettre ailleurs, peut être interprétée comme la continuation par d'autres moyens de la politique indigène conduite en métropole. En effet, cette structure nouvelle complète le dispositif juridique et policier déjà mis en place en remplissant les fonctions distinctes mais complémentaires parfaitement congruentes avec les missions de du service de surveillance et de protection des indigènes nord-africains. Fonction de santé publique d'une part, qui intéresse les colonisés immigrés venus du Maroc, de la Tunisie, des départements français d'Algérie, ainsi que la population métropolitaine que l'on souhaite protéger des épidémies. Fonction de contrôle d'autre part, puisqu'il s'agit face à l'afflux, je cite, hein, entre guillemets, d'hommes laborieux mais dépaysés, c'est comme ça qu'on dit à l'époque, de contribuer à séparer, je cite, les individus indésirables des éléments sains. Comme l'affirme le président du Conseil général de la Seine, Augustin Beau, dans son discours prononcé le jour de l'inauguration de l'hôpital. De là, le statut dérogatoire, exorbitant en fait au regard du droit commun de cet établissement, qui est soustrait à l'assistance publique et placé sous la double tutelle des préfectures de Paris et de la Seine, cependant que les patients sont ouvertement sélectionnés sur des critères raciaux. Si cette ségrégation est nouvelle en métropole, elle est depuis longtemps établie dans les colonies françaises. Il ne s'agit donc pas d'une innovation à proprement parler, mais de l'importation en France même de mesures et de techniques de gestion des populations indigènes qui semblent avoir été la règle dans de nombreux territoires de l'Empire. Donc là, c'est un exemple, si tu veux, du point de vue des politiques de santé, de la manière dont se met en place dans les colonies une ségrégation raciale du point de vue de la prise en charge des maladies. Ségrégation raciale qui a pour but de préserver les individus sains, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire le corps national.
Mais c'est là qu'on voit aussi comment ils tiennent d'une main les idéaux des Lumières, en fait, ou de 89. C'est avec la mission civilisatrice, en fait. Justement, les dépayser, il s'agit de les... Les paysés, les civilisés, en fait.
Alors là, c'est pour les soigner, parce qu'ils vont repartir après, ceux-là. Ah, mais effectivement, sur place, sur l'Empire, il s'agit surtout, effectivement, de maintenir cette espèce de clôture et de ségrégation. Juste un dernier chiffre, là, avant qu'on fasse une deuxième coupure. Les statistiques, elles sont quand même assez cruelles, parce que, et on mesure, en fait, tout justement, la dimension d'inégalité et de dérogation entre la métropole et l'Empire, puisque par exemple, si on prend les statistiques pour la proportion de médecins rapportés à la population, les chiffres nous donnent à l'époque, donc à la fin du 19e, à peu près un médecin pour 1700 habitants, ça c'est pour la métropole, et dans les colonies, c'est un médecin pour 60 000.
D'accord.
Voilà, donc ça donne...
Fois 60.
Voilà, on est quasiment
60 médecin. Fois moins dans les colonies, quoi.
1700, 60 000. Voilà, 1700 habitants en métropole, un médecin pour 1700, 61 pour 60 000 dans les colonies.
On va peut-être faire... Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire, 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Vous venez d'entendre un titre du groupe Verdun qui s'intitule « C'est ça la France ». Et juste avant, on a entendu un titre de Larissa Louz qui s'appelait « Territorio Conquistado ». Donc ce soir, c'est Jean-Mathias qui nous présente un livre d'Olivier Lecourt-Grandmaison, La République impériale, poétique d'État et racisme d'État. Donc un livre qui date de 2009 et qui nous explique pourquoi, comment on a perçu un petit peu très rapidement les pays, les colonies en fait comme outil de grandeur de la France et aussi comme des pays sans histoire.
Pays sans histoire, c'est la base, hein, c'est la base. Mais il est toujours donc en fait sur son travail en fait pour essayer de d'expliquer comment a pu comment un régime, des institutions comme de nature républicaine, égalitariste, liberté, égalité, fraternité, laïcité, à vocation universelle. Comment ce régime-là a pu s'impérialiser ? C'est ça au fond, hein, sa question à Olivier Lecour Grandmaison.
Une république a pu être un empire en fait.
Ben c'est ça. Quel travail de gymnastique, d'adaptation, de subversion, de conversion, d'occultation il faut faire sur ses propres idéaux, sur sa propre histoire pour justifier le deuxième empire colonial.
Donc on l'a vu, ça
passe
par un travail scientifique, des institutions, d'éducation et aussi de travail de
d'administration. Et là, alors, si j'ai cité l'exemple de l'hôpital de Bobigny, c'est un micro-exemple bien évidemment, mais on est dans les années 20 là, donc c'est un peu plus tard, hein, c'est après la Première Guerre mondiale et tout ça, mais c'est parce qu'il est emblématique alors de ce qui intéresse aussi le Lecour Grandmaison. Alors c'est un parti pris de sa part bien évidemment, c'est d'insister sur la place du biologique, des corps en fait dans cette affaire-là, la manière dont effectivement par un discours d'État et par une politique d'État, c'est pas la seule évidemment, hein, mais c'en est une, comment se crée un corps national, et un corps national qui d'abord effectivement va mobiliser des critères biologiques, hein, puisqu'il y a les individus sains et puis ceux qui du coup sont malsains d'une certaine manière, et en fait à l'intérieur même de l'Empire il s'intéresse aussi, bon j'ai pas le temps de lire tout ça, mais en fait à toutes les questions qui sont abordées justement par ceux qui forment les cadres qui sont envoyés aux colonies, ou même des débats qui en fait inquiètent un petit peu les partisans de l'impérialisme français, parce qu'en fait ils voient partir des gens qui ne sont pas d'une très grande valeur dans cet empire, parce qu'ils vont tenter l'aventure, parce qu'ils sont un échec en métropole, et en fait il y a toute une réflexion sur justement l'espèce de danger de corruption physique et morale qui est lié au fait de quitter la métropole, hein. Donc il faut à la fois effectivement l'administrer cet empire, mais d'une certaine manière il faut porter civiliser, ça c'est pour les gogos en métropole, parce que sur place on civilise pas grand chose, mais il faut surtout en fait d'une certaine manière préserver, développer tous les membres sains de ce corps national qui assume cette vocation impériale de la France. Donc il y a tout un tas de débats sur justement les dangers de la corruption, ce qu'ils appellent l'africanite en fait, hein, c'est-à-dire le fait de devenir oisif, de perdre son sens moral, de perdre finalement son identité raciale finalement.
Ça c'est une peur qu'ils ont envers des individus qu'ils envoient dans les colonies.
Voilà. Une fois que tu as constitué les corps étrangers dans l'Empire, si tu veux, qui subissent un régime dérogatoire, effectivement, il faut aussi que tu préserves ceux du corps national. Et alors, peut-être pour aller dans ce sens-là, l'importance effectivement une politique des corps. Alors, il mentionne très souvent, il est dans une logique un peu d'inspiration néo-foucaldienne de Foucault, hein, c'est-à-dire qu'il mobilise des catégories de biopolitique, ce genre de choses. Ce qui l'intéresse, c'est ça, hein, c'est comment on construit effectivement politiquement une certaine conception des corps, de la race,
corps,
du sain,
ouais.
du normal, du pathologique, etc. Mais appliqué là, effectivement, dans ce contexte impérial, bon, c'est pas forcément ce qui est le plus convaincant, mais les textes sont là, hein, et les débats sont là, ça c'est clair. Il s'intéresse aussi beaucoup à un certain nombre d'auteurs, alors qu'ont été opportunément oubliés aujourd'hui, mais qui ont eu une audience certaine à l'époque, notamment du côté des philosophes. Alors c'est des noms qui pour le coup sont sortis du panthéon académique, ça c'est le cas de le dire, mais il parle notamment de Carl Siger, là on est début du XXe siècle, Ernest Seyer, et aussi alors c'est d'un philosophe et économiste qui pour le coup est un des fondateurs de la coopération économique, c'est Gide, qui est professeur au Collège de France, c'est pas rien, hein. Et pour Carl Siger, alors je reprends les deux premiers, c'est l'auteur notamment en 1907 là d'un livre qui s'appelle Le Darwinisme impérial. Alors, comme il y a eu un darwinisme social, hein, c'est-à-dire des interprétations de l'idée de sélection naturelle chez Darwin, qui allait dans le sens d'une analyse des sociétés humaines comme des espèces de machines à sélectionner les meilleurs, hein, et à éliminer, du coup, ceux qui n'étaient pas, ben, effectivement, on trouve la même chose chez Carl Siget, qui est souvent, et à l'époque considéré comme une sorte de Nietzsche français, qui, dans ce texte-là, Darwinisme impérial, il s'agit en fait d'éliminer ce qui considère comme une espèce de pollution intellectuelle et morale en fait de la France et des pays européens, à savoir l'amour de l'humanité. Ça, c'est quelque chose qui s'oppose justement à cette espèce de concurrence entre les peuples qui sont comme les individus tels que lui le lit chez Darwin. Darwin, c'est pas du tout ça, mais qui sont en concurrence les uns avec les autres et qui sont face à ce mécanisme de sélection naturelle. C'est à l'échelle des peuples que ça se joue.
Ouais, cette affaire, internationale, en fait.
À l'échelle internationale. Et donc, cette grande compétition, eh bien, en fait, le juge de paix, c'est la taille de l'empire, évidemment, que chaque peuple arrive à. Et évidemment, en s'appuyant sur ses vertus naturelles de caractère, physique et culturel, hein, bien entendu.
Donc c'est une justification, encore une fois,
bien
de la colonisation.
Bien entendu, mais ce qui est intéressant, c'est encore une fois une manière de tendre vers la justification biologique, si tu veux, de cet impérialisme-là. Hein. Ça, c'est une tendance lourde, si tu veux. Donc ça va avec une conception racialiste. De cet impérialisme républicain, hein. Ce qui montre que effectivement cette République française, patrie des droits de l'homme, etc., elle n'est pas immunisée, hein, elle n'est pas immunisée contre ce type de discours-là. Alors on peut trouver que c'est complètement aberrant ou contradictoire. Dans un sens, ça l'est complètement. Il n'empêche que un État républicain, pendant près effectivement de 60 ans, a soutenu des discours de ce type. Alors l'autre cas, c'est par exemple Ernest Seyer. Alors ça, c'est pas n'importe qui. Ernest Seyer, même année 1907, sort une philosophie de l'impérialisme. Et c'est effectivement une entreprise qui a une ambition philosophique. Il reçoit le prix de l'Académie française. Il est dans la foulée élu à l'Académie des sciences morales. Et en 46, hein, en 1946, il sera élu à l'Académie française.
Hein. Et donc ça va, c'est quelque chose qui va rester
bien
encore
sûr,
très longtemps.
Bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors 31, il y a la date pivot, c'est l'exposition coloniale, ouais, hein, ouais. Effectivement, qui est un espèce de d'aboutissement et de célébration en fait de ce colonialisme impérial. Et alors toujours du point de vue un petit peu des pointures, je dirais intellectuelles, hein, de cette Troisième République, il y a le cas de Gide, alors qui est pas un type inintéressant, hein, je veux dire un des fondateurs de la coopération. Ça, c'est le côté clair de la force. Mais alors du côté obscur, c'est aussi quelqu'un qui a été mis à contribution très largement pour justifier, parce que c'est évidemment une question qui se pose, l'expropriation des colonisés, tout simplement. C'est-à-dire penser à un discours juridique qui permette de justifier le fait que des millions de personnes qui se trouvent expropriées de leurs terres, de l'accès à leurs ressources...
Pour devenir quoi ?
Eh bien, pour devenir décolonisés, quoi. Décolonisés, tout simplement. Et ça, alors on est en 1930, là, donc Gide est déjà au Collège de France, déjà depuis de longues années, une audience certaine. Et alors ça, je trouve que c'est extraordinaire, en fait, comme innovation juridique, parce que, au fond, le concept que Gide va inventer pour justifier cette expropriation massive, en fait, hein, que représente l'Empire, l'impérialisme, il va chercher, donc, évidemment, la mission civilisatrice de la France, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'en fait, ça joue aussi à tous les niveaux, du point de vue économique,
oui,
sanitaire.
Oui, c'est une justification de la colonisation économique aussi.
Oui, et en fait, il va chercher pour... toujours cette espèce d'acrobatie là, entre les idéaux patriotes nationaux et l'universalisme. Il dit qu'au fond, la colonisation, elle est justifiée, dans le cas de la France, je cite, « pour cause d'utilité publique mondiale ». C'est-à-dire qu'il y a
on
une...
On retombe sur la mission civilisatrice, c'est
exactement,
pas ça ?
Exactement, mais c'est pas simplement dans le domaine culturel. C'est-à-dire qu'il est d'utilité publique mondiale que les dominants naturels exproprient les dominés naturels qui ne font rien, en fait, de ces territoires, qui ne font rien...
Oui, c'est des ressources économiques qui vont permettre absolument. La mission civilisatrice, idéologique...
Mais une civilisation mondiale, c'est-à-dire qu'il retombe, du coup, il croit retomber sur ses pattes...
Sur un universalisme...
C'est dans l'intérêt général, en fait, c'est dans l'intérêt général, mondial.
Oui, oui.
Ok, c'est peut-être pas localement l'intérêt des colonisés, mais ça reste effectivement conforme au projet universaliste et à la vocation universaliste de la République française. Donc on a ça. Alors bon, c'est des Bon, tout, voilà, il explore un petit peu, voilà, toutes les tentatives, si tu veux, d'acrobatie idéologique, d'accommodement, de subversion, de tout ça. Alors, on n'a pas le temps là, mais c'est je l'ai évoqué au tout début. Hein, c'est évidemment ce qu'il a en tête, c'est d'essayer d'établir les termes d'une comparaison entre cette forme d'idéologie impériale républicaine française et puis l'espèce d'aboutissement catastrophique de l'impérialisme que représente le nazisme. Donc il a cette c'est une de ses lignes effectivement de raisonnement, et on voit qu'effectivement bah il y a un certain nombre de cases qui cochent, quoi, hein, si tu veux, c'est-à-dire la biologisation du peuple, le peuple pensé comme ethnos finalement, hein, comme on dit, et non plus comme demos, et comme un ethnos dans une hiérarchie en fait, hein, d'ethnie, une hiérarchie.
Donc un peuple fondé sur des critères biologiques.
Et oui, en fait, tous ces gens-là sont d'accord. Alors, bien sûr, il y a des traits après de caractère, des traits culturels, des traits historiques, institutionnels et tout ça. Mais à la base, effectivement, voilà, il y a les éléments sains du corps national, hein, et qui a besoin, hein, c'est des justifications qui sont là, en fait, hein, dans le darwinisme impérial, là, par exemple, de Siget, qui a besoin de s'étendre, qui a besoin et qui a le droit de le faire.
Le devoir, si
le droit, voire le devoir à l'échelle, effectivement, de l'intérêt public mondial. Hein. Et donc là, on a quelque chose, effectivement, qui va tendre vers, hein, l'idée que, en fait, c'est une espèce de mouvement vital, finalement, hein, d'un peuple, et d'un peuple, voilà, qui a une vocation à dominer les autres, en l'occurrence la France. Comment tout ça peut être, effectivement, digéré dans un contexte républicain, c'est assez fascinant, hein, mais dans les faits, bon, c'est ce qui se passe. Alors, quelle est la part de l'idéologie là-dedans? Évidemment, c'est toujours compliqué. Hein, mais je cite, par exemple, page 296, il fait un résumé, finalement, de toutes ces sources, vers quoi elles convergent, vers cette idée, finalement, que l'Empire, c'est la vie et la garantie de la bonne santé du corps national, qui peut, dans les contrées d'outre-mer, puiser des forces nouvelles pour poursuivre correctement sa croissance. Et qui a le droit de le faire. Et qui a le droit de le faire. Alors, juste pour être tout à fait exact et tout à fait honnête, il note quand même en conclusion, il ne dit pas que la République impériale, c'est le nazisme. Hein. C'est pas ça qu'il dit. Il dit qu'il y a effectivement un certain nombre de points de convergence. Il dit qu'évidemment, en revanche, il n'y a pas de spécificité génocidaire, et que la spécificité d'extermination qui va être propre à l'expansion impériale nazie, appliquée à l'Europe cette fois-ci, appliquée à l'Europe elle-même, mais elle a dès le départ, en fait, cette dimension génocidaire, c'est-à-dire que le Lebensraum, hein, l'espace vital, c'est aussi un espace d'extermination, immédiatement. Hein. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas présent du tout, hein, dans cette idéologie impériale républicaine, qui, elle, effectivement, a vocation à l'exploitation des ressources et des peuples, et puis au peuplement, hein. Sachant que ça n'a pas vraiment fonctionné en réalité. Hein. Mais donc voilà un petit peu les questions et les sujets débattus dans ce livre très intéressant, très riche, très nourri. Hein. Même si c'est pas une méthodologie historienne
mais politiste qui
exactement orthodoxe.
Il a aussi son intérêt.
Exactement.
Donc c'était Jean-Mathias qui vous présentait La République impériale d'Olivier Lecourt
Grand Maison.
Le peuple se rend compte contre le pouvoir. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire dans l'émission Musique en Lutte. Et aujourd'hui, nous vous proposons une émission de playlist musicale reggae contre la guerre et antimilitariste. Alors sans refaire toute l'histoire du reggae, nous pourrions rappeler que cette musique est née en Jamaïque avec le ska et le rocksteady. Sous le joug colonial de l'Angleterre dans les années 60, puis sous un gouvernement néocolonial, les morceaux étaient au début plutôt instrumentaux du fait de la répression, le reggae invisibilisé et ostracisé. Même sur les radios nationales de Jamaïque, on entendait très peu de reggae avant les années 80, alors que la production musicale était énorme. En effet, selon l'historienne du reggae Hélène Lee, on dénombre environ 20 000 titres produits entre 70 et 80. Les textes politiques ne sont apparus que dans les années 70. Effectivement, à partir de 1974, avec la gouvernance du socialiste Michael Manley, les artistes tels que Bob Marley, Max Romeo ou encore Peter Tosh se sont mis à écrire des textes revendicatifs. Les paroles des chansons se libèrent, abordant des thèmes tels que les injustices sociales, les violences policières, le colonialisme, l'absurdité de la guerre, la volonté de retour en Afrique des descendants d'esclaves. En Jamaïque, en 1976, lors des élections entre le socialiste Manley et le parti de droite JLP d'Edward Sega, soutenu par les États-Unis et la CIA, des centaines de personnes sont massacrées et une guerre civile sévit pendant plusieurs années, en pleine guerre froide. S'en suivra une Jamaïque subissant les politiques néolibérales et appauvrissantes du FMI. Une Jamaïque surarmée, devenue plaque tournante de l'importation des drogues aux USA, avec une violence terrible des gangs et le triste record mondial d'homicides par kilomètre carré. Voilà le contexte dans lequel s'inscrit un véritable mouvement anti-guerre et anti-militariste dans les paroles de cette musique et qui perdurera jusqu'à aujourd'hui. Longtemps, le reggae a été perçu comme portant une parole molle et dépolitisée, mais il faut bien percevoir la violence politique et sociale qui sévissait alors à l'époque et comment beaucoup d'artistes ont articulé une critique sociale, anticolonialiste et anticapitaliste au travers de leurs textes. Nous vous proposons donc ce soir une playlist pour la paix contre l'impérialisme et la militarisation du monde. Comme disait Louise Michel, la société humaine n'en a plus pour longtemps de ces guerres qui ne servent qu'à ses ennemis, ses maîtres. Nul ne peut empêcher le soleil de demain de succéder à notre nuit.